Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es venu ce matin dans ce temple prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, renouveler tes forces physiques et spirituelles par le chant, la prière, et rencontrer aussi ton prochain au milieu de ton activité familiale ou de ton travail, eh bien, sois sans crainte. Le Seigneur est là, il t'appelle, il t'invite à l'écouter et à le recevoir ici et maintenant. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère.
Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte. En jour 17 du reconfinement, le temple est fermé au public, bien sûr, et la maison presbytérale aussi, mais nous sommes ensemble, vous n'êtes pas seuls et nous non plus, nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes en communion par la musique, et aujourd'hui nous avons l'avantage d'avoir une de nos catéchumènes qui va venir chanter pour nous un morceau de Britten. Nous sommes aussi ici ensemble, bien sûr, dans le partage de la Bible et par la prière. Il est important de prendre soin des autres en respectant les consignes sanitaires obligatoires et en prenant la mesure de l'ampleur de cette pandémie, au-delà de toute polémique sur les moyens de la combattre. Nous sommes donc ici dans une situation où nous essayons de maintenir le lien ensemble, malgré toutes les difficultés, pour le bien de tous. Nous associons à ce temps de culte les familles endeuillées en cette période difficile. Les liens Internet, les réseaux sociaux et le téléphone nous aident à maintenir un contact, à dialoguer à distance, à nous soutenir dans cette épreuve et à éviter tous les rassemblements qui seraient dangereux pour la santé de tous. Aujourd'hui, nous saluons particulièrement les amis qui nous rejoignent de divers pays. La Roumanie nous regarde aujourd'hui, les Pays-Bas, les États-Unis qui vivent une période historique très intense. Nous pensons à eux, le Canada, l'Italie, le Maroc et sans doute d'autres pays, et qu'ils n'hésitent pas à nous faire signe si leur pays de résidence n'a pas été cité ici et s'ils souhaitent s'associer à nous. À cette date, vous auriez dû voir les enfants de l'éducation biblique ici avec nous dans ce temple. Ils seront avec nous dans des séances qui s'échelonneront tout l'après-midi, mais par des moyens évidemment virtuels. Donc, niveau par niveau, les moniteurs, monitrices ont établi une éducation biblique adaptée en ce jour particulier. Et donc, tous les parents pourront connecter leurs enfants cet après-midi. Pour tous les bienfaits que Dieu fait pour nous, nous le louons maintenant. Je vous invite à la louange avec le psalmiste. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Nous entendons maintenant la mélodie du psaume 84, et c'est David Cassan qui nous accompagne ce matin à l'orgue, et vous pouvez suivre les paroles du psaume sur les moyens techniques que vous avez avec le site ou la newsletter. Merci.
Thank you.
prions ensemble et nous déposons devant Dieu tout ce qui pourrait nous séparer de lui. Seigneur Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché. J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains le sac de nœuds où je m'étouffe enfin, en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors et avec les tourments qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité de ta bonté. Ô Dieu, j'ai besoin de toi. Amen. Et le Seigneur sans cesse redit sa grâce et son pardon. Il est sans cesse à nos côtés. Recevons le pardon que Dieu nous donne. Pour nous aussi, cette parole est vraie et digne d'être reçue. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Chantons à Dieu notre reconnaissance pour cette grâce renouvelée sur nos vies. Et nous chantons, nous entendons la mélodie du cantique 415, « Mon Sauveur, je voudrais être ». Et vous trouvez aussi les paroles du cantique.
Joignons nos voix à la confession de foi du foyer de l'âme pour exprimer notre foi. Je crois en Dieu, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre frère. Il a souffert, il est mort, il nous pardonne. Il est la vie et la lumière du monde. Son règne dépassera le temps. Malgré notre faiblesse, je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu est l'espérance des hommes et l'homme est l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit présent au monde et au cœur des hommes. L'Esprit donne la paix aux hommes de bonne volonté. L'Esprit de Dieu crée et recrée le monde, le dynamise et le conduit vers le royaume. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Prions ensemble. Seigneur, ouvre notre esprit à l'intelligence de ta parole. Que notre cœur demeure brûlant tandis que tu nous parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole, Seigneur, accomplisse au cœur de notre vie ta volonté. Qu'elle féconde notre vie et lui permette de porter des fruits. Oui, que ta parole soit la vérité de nos existences et la lampe de nos pas. Amen. Nous écouterons trois extraits de la Bible aujourd'hui, deux qui sont empruntés au livre du Cantique des Cantiques et un autre emprunté à l'Évangile de Matthieu. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 13, nous lisons ceci. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Un autre verset dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 5, les versets 13 et 14. Les joues de mon bien-aimé sont comme un parterre d'aromates. Ce sont des amas d'épices. Ses lèvres sont des lys d'où coule la myrrhe. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, nous lisons ce verset 11. Les mages venus d'Orient entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Thank you. Amis, frères et sœurs, cette année, nous poursuivons avec les enfants de l'éducation biblique notre apprentissage des arbres de la Bible. Après avoir découvert le figuier comme symbole de la patience de Dieu au mois d'octobre, l'arbre que nous découvrons en novembre est celui de la myrrhe comme soin de notre humanité. Mais qu'est-ce que la myrrhe ? C'est une gomme résineuse, produite naturellement par un excès de sécrétion que l'on trouve sous l'écorce de certains arbres ou arbustes de la famille des Burseracées, particulièrement en Arabie ou en Abyssinie, mais qu'on ne trouve pas en Palestine. La myrrhe est donc un produit d'importation très recherché. La myrrhe est utilisée pour les soins de beauté du corps des femmes, mais aussi pour parfumer le lit et les vêtements. Elle sert aussi à embaumer le corps des défunts. Cette résine, d'une consistance très dure, se distille au contact d'un liquide ou se mélange à de l'huile. Elle a une saveur âcre, légèrement amère, d'où la racine d'origine sémitique de son nom. Et elle dégage une odeur à la fois capiteuse et relaxante. La myrrhe a des vertus analgésiques. Et selon le livre des Proverbes, il est écrit « Procure des boissons fortes à qui va mourir. » Du vin auquel on additionnait de la myrrhe provoquait une sorte de sédation et permettait de supporter la douleur. La myrrhe est donc l'un des trois présents qui a été fait à Jésus au moment de sa naissance. En effet, dans l'extrait de l'évangile de Matthieu que nous venons d'entendre, il est raconté que des savants, qu'on appelle aussi des mages, sont venus de pays orientaux extérieurs à Israël en suivant une étoile pour arriver jusqu'à Bethléem, lieu de la naissance de Jésus, et ont adoré l'enfant. Dans leur bagage, ils avaient amené des cadeaux dont trois ont marqué le souvenir de l'évangéliste, à savoir l'or, l'encens et la myrrhe. Longtemps, on a cherché ce que pouvaient signifier ces trois présents, et ce sont les pères de l'Église, comme Irénée de Lyon au IIe siècle ou Saint Grégoire le Grand au VIe siècle, qui ont donné une interprétation pour chacun d'eux. L'or, inaltérable, symbolise dès l'Antiquité la royauté, la puissance et le règne. Et l'or est abondamment cité dans la Bible, dans les récits des patriarches en particulier, ou à la sortie d'Égypte. Mais ici, il désigne la dignité royale de Jésus. L'encens est une autre résine qui, en brûlant, dégage une fumée qui monte vers le ciel, symbolisant la prière montant vers Dieu. Ainsi que dit le psalmiste, que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Et comme il était utilisé dans le temple de Jérusalem, eh bien l'encens est le symbole de la divinité. Ici, il désigne la nature divine de Jésus. La myrrhe, quant à elle, est une résine aux vertus les plus diverses. Elle n'est citée qu'une petite vingtaine de fois dans la Bible, et pour des emplois très différents, allant du sacré au profane, des délices de l'amour aux soins ultimes de la dépouille. La première mention se trouve au livre de l'Exode, quand l'Éternel demande à Moïse de se procurer 5 kilos de myrrhe et de les mélanger à d'autres aromates afin de fabriquer une huile qui permettra de consacrer la tente de la rencontre et l'arche de l'Alliance, délimitant ainsi l'espace sacré de l'espace profane. On retrouve la myrrhe à plusieurs endroits du Premier Testament, en particulier au livre d'Esther, où l'on raconte que 12 mois avant de rencontrer le roi Assuérus, Les jeunes filles du harem enduisaient leur corps avec de la myrrhe pendant les 6 premiers mois de l'année, puis avec d'autres onguents pendant les 6 autres mois, afin de rendre leur corps encore plus désirable. La myrrhe a donc des vertus érotiques, comme cela est décrit de façon détaillée dans le Cantique des Cantiques, qui mentionne la myrrhe pas moins de 7 fois en 8 chapitres. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. La myrrhe a également des vertus thérapeutiques. Bien qu'il est possible de trouver la myrrhe sous forme de boulettes de résine ou d'huiles essentielles, la forme médicinale la plus répandue, la plus utile, est la teinture. Elle soigne alors les irritations des muqueuses de la bouche, de la gorge ou permet la cicatrisation des blessures légères. Au cours des combats, les soldats grecs en avaient toujours à portée de main car ils connaissaient ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Elle servait donc à nettoyer les blessures et à prévenir l'infection ou même la progression de la gangrène lorsque l'infection était déjà installée. Les vertus médicinales de la myrrhe font toujours leur preuve aujourd'hui dans de nombreux pays du monde grâce à une pharmacopée extrêmement précise à observer méticuleusement de peur que les qualités de cette gomme résineuse ne se retournent contre la personne qui l'utiliserait de façon exagérée ou inappropriée. La myrrhe offerte à Jésus lors de sa naissance symbolise donc son humanité. Elle sera mentionnée 2 fois au cours de la vie de Jésus. Une fois au moment de sa crucifixion dans l'évangile de Marc, quand les soldats lui proposent du vin mélangé à de la myrrhe, ce qui l'aurait en quelque sorte anesthésié, et ce que Jésus refuse. Ainsi, il restera solidaire des souffrances humaines. La myrrhe fait aussi partie de ces onguents mélangés à d'autres aromates comme l'aloès qui servent à embaumer les corps des défunts. Les Égyptiens s'en servaient quotidiennement dans leurs rituels sacrés ainsi que pour embaumer leurs pharaons. Cette utilisation de la myrrhe est particulièrement mentionnée dans l'évangile de Jean lorsque Nicodème, l'homme qui était venu rencontrer Jésus de nuit au tout début de ce même évangile, n'hésite pas à venir chercher le corps de Jésus après sa mort, aidé en cela par Joseph d'Arimathée. Il apporte, nous dit le texte, près de 30 kilos de myrrhe et d'aloès afin d'envelopper le corps de Jésus avec des bandelettes enduites de ces aromates, comme c'était la coutume chez les Juifs à cette époque. On peut s'étonner de cette grande quantité, de cette quantité énorme, voire disproportionnée, indiquée par l'évangéliste. En effet, cette quantité correspond à un ensevelissement d'une personne royale, comme cela est mentionné dans le 2e livre des Chroniques, pour les funérailles du roi Asa. Selon Jean, l'évangéliste Nicodème traite donc le corps de Jésus comme le corps d'un roi méritant les plus grands honneurs. C'est sa manière à lui de déclarer ouvertement que Jésus est roi et de confirmer ainsi l'exactitude de l'écriteau « Celui-ci est le roi des Juifs » posé quelques heures auparavant par Pilate au-dessus de la croix. On ne peut pas dissocier la myrrhe de l'ensevelissement de Jésus, de la myrrhe offerte par les mages orientaux à sa naissance. Si la myrrhe désigne l'humanité de Jésus et que la myrrhe se rapporte essentiellement aux soins du corps, du plaisir amoureux à la guérison des blessures, jusqu'à la conservation ultime du corps défunt, la myrrhe offerte à Jésus annonce déjà son ministère de guérison, non seulement des corps, mais aussi des âmes, libérant les hommes dans leur relation à Dieu. Cette myrrhe offerte est le symbole d'un monde déjà soigné, déjà guéri et même déjà réconcilié avec la mort, intégrée à la vie sans que cela ne fasse peur. Mais la myrrhe déposée aux pieds de cet enfant est une promesse. Tout est là, déjà, en germe, mais tout reste à faire, tout en gardant cette confiance absolue que cela se réalise chaque fois que l'humanité de l'être humain est soignée d'une façon ou d'une autre, corporellement, spirituellement. Pour l'évangéliste Matthieu, ce sont les païens, autrement dit les non-juifs, qui ont reconnu en Jésus cette promesse en devenir. Cette reconnaissance ne se limite plus à Israël, mais elle s'élargit à l'universalité du monde. Elle rejoint notre monde d'aujourd'hui qui a bien besoin de voir son espérance restaurée dans toutes ses dimensions. L'année que nous vivons en ce moment, avec ces deux confinements successifs, montre à quel point notre humanité a besoin d'être soignée, et pas seulement du Covid. Alors que nous sommes confinés, avec d'ailleurs plus ou moins de rigueur, alors que nos relations sont régies par la distanciation physique, le port du masque, les mains passées au gel hydroalcoolique, alors que nos vies personnelles, familiales, professionnelles, culturelles, ecclésiales se vivent essentiellement par écran interposé, nous avons certainement l'impression de vivre une vie réduite à une peau de chagrin. Elle s'accompagne aussi d'une remise en question de nos fonctionnements institutionnels et sociétaux qui se manifestent par une violence difficilement supportable. Les nouvelles du monde ne sont pas rassurantes, sans oublier la menace terroriste qui plane au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Les services de réanimation débordent. Certaines personnes ne sont plus soignées à temps pour d'autres maladies hors Covid. Le comble pour ces professionnels du soin, c'est d'avoir ce choix crucial à faire : qui soigner en priorité ? La question qui se pose quotidiennement aux personnels hospitaliers, eh bien, nous pouvons l'élargir à nous-mêmes. Comment prendre soin les uns des autres en ce moment ? Comment soigner notre propre humanité ? Et que soigner en priorité ? À défaut d'utiliser de la myrrhe concrètement pour nous-mêmes, comment allons-nous être de la myrrhe symbolique les uns pour les autres ? Qu'est-ce que nous allons pouvoir inventer pour rendre la vitalité à l'autre, en train de céder à la déprime, inquiet pour son avenir ou bloqué dans une impasse ? Dans notre contexte complexe, nous sommes invités à garder la tête froide, mais aussi à cultiver la chaleur de notre cœur, à prendre soin de notre propre humanité. Et prendre soin de son humanité consiste à se souvenir des pépites de myrrhe que nous avons reçues soit dans un passé proche, soit dans un passé lointain, sous la forme de l'amitié, de l'amour, de la tendresse. C'est se souvenir des belles choses, pour reprendre le titre d'un film, et se souvenir de comment les prochains, parfois inattendus, nous ont aidés en posant leurs mains sur notre épaule, en partageant la tempête de nos existences, nous disant les mots qui rassurent, qui soulagent, qui cicatrisent et qui réconcilient. Pensons encore à celles et ceux qui nous ont fait confiance alors que nous-mêmes, on ne s'en sentait pas capables ni dignes. À celles et ceux qui étaient là pour partager le chagrin, la solitude, la remise en question. Pensons à celles et ceux à qui on a pu avouer sa faiblesse sans qu'ils s'en servent pour affirmer leur force, selon la citation de Cesare Pavese. Se souvenir, oui, mais surtout rendre grâce.
Rendre grâce, c'est prendre soin de son humanité en abandonnant la médisance, la méchanceté gratuite. C'est sortir de la spirale infernale du jugement hâtif, de la comparaison destructrice et culpabilisante. Prendre soin de sa propre humanité, c'est prendre soin de l'humanité des autres, en se posant la question, mais comment vais-je m'y prendre pour donner tout ce que j'ai reçu ? Et retrouver ainsi les gestes élémentaires de la solidarité, pas forcément matériels d'ailleurs, mais morale, spirituelle, amicale, fraternelle. Prendre soin de son humanité avec la foi qui est la nôtre, indépendamment d'une identité religieuse, eh bien, c'est garder le lien, la communion, par la prière ou le partage d'une pensée, d'un tableau ou d'une musique. Être présent les uns aux autres, être imprésent les uns pour les autres, comme les pépites de la myrrhe. Alors, frères et sœurs, amis, n'ayons pas peur de faire confiance à la vie, finalement, qui, de toute façon, a beaucoup plus d'imagination que nous-mêmes.
Amen.
Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup Constance, merci pour ce magnifique morceau de Benjamin Britten que tu nous as interprété avec beaucoup de grâce, merci. Nous allons partager maintenant des annonces, merci à Agnès et je passe la parole à Aurore pour les annonces, notre présidente du conseil presbytéral.
Merci Béatrice, merci à Constance et à son papa de l'avoir accompagné au piano en direct. Et à David tout à l'heure à l'orgue. Merci d'être présent en direct avec nous. Ça nous met beaucoup de chaleur au cœur, parce qu'il fait froid ici, on a coupé le chauffage. Donc il faut le savoir, c'est qu'il n'y a personne, et en plus il fait froid. Mais vous êtes là, et c'est ce qui compte. Nous avons repris, enfin les prières quotidiennes, les pasteurs continuent. Elles ont vraiment leurs habitués maintenant, tous les matins, tous les soirs. Il y a jusqu'à 200 vues par jour de chacune des prières. Donc elles sont attendues. Nous avons aussi recommencé la pause spirituelle, le jeudi en direct. C'était pas facile, mais les pasteurs ont osé. Elles l'ont fait avec l'aide de Sarah Kim, notre organiste. Et nous étions pour la première, donc, qui était jeudi à 12h30, quatre fois plus que d'habitude. Donc ça fait du bien de prendre les soins les uns des autres. Et il y a un véritable besoin, donc je vous redonne rendez-vous jeudi 12h30 pour la pause spirituelle ici en direct. Également, merci pour les dizaines de petits mots d'encouragement quotidiens que vous envoyez à nos pasteurs. Ils sont très très précieux, c'est une mire symbolique de recevoir une dizaine de petits mots d'amour, parfois d'ailleurs pour nos pasteurs, mais amour au sens agapé du terme, enfin pour le moment. Et vraiment, ça fait très plaisir. Parce qu'il y a des moments très compliqués dans la semaine, très très compliqués. Tu le disais tout à l'heure, mais on a beaucoup de demandes d'accompagnement de famille dans la douleur. Nos pasteurs sont sollicités plusieurs fois par semaine en ce moment pour des accompagnements en urgence, à domicile, à l'hôpital, au crématorium, même à l'institut médico-légal. Il y a vraiment, vraiment des drames qui sont en train de se passer. Et les conditions d'enterrement restent extrêmement difficiles à Paris. Agnès disait que le confinement était moyennement respecté. Du point de vue de l'Église ici, les coups de fil qu'on a, franchement, faites attention, respectez ces règles barrières. On n'est pas du tout sorti des difficultés. Donc nos pasteurs se rendent immédiatement disponibles, présentes auprès de ceux qui sont en véritable détresse. L'application directe en fait de la prédication d'Agnès ce matin, c'est elles prennent soin de notre humanité, c'est important de prendre soin de leur humanité également. Donc c'est un peu le grand écart au quotidien parce qu'il faut garder le moral, il faut faire sourire parce que le sens de l'humour ça aide aussi à la distanciation et rire rime avec mire. Donc il faut, tu ne l'as pas fait, mais je l'ai fait du coup Agnès, ça permet aussi de garder un rythme et chacun doit garder un rythme et ses routines sont importantes. Et tout à l'heure Béatrice l'a souligné, l'éducation biblique a été maintenue aujourd'hui. Ce matin même, Chloé est avec un membre du conseil presbytéral en train de s'occuper de l'éveil biblique. C'est important aussi de garder ce rythme. À distance bien entendu. Le synode régional qui devait avoir lieu le week-end prochain a été reporté, donc nos deux pasteurs seront ici, moi-même également, mais nous avions prévu Vincent Hubach pour présider ce culte. Vincent nous a confirmé hier soir qu'il sera bien présent parmi nous dimanche prochain. C'est important d'ouvrir les portes de l'oratoire à cette grande famille libérale et Vincent Hubach en est un pilier. Je pense qu'il n'appréciera pas le terme, mais ça en est un pilier. On le retrouve donc dimanche prochain à 10h30. Pour un rugbyman, c'est normal, me dit Béatrice. Donc, notre appel, dernier grand merci aux donateurs. Notre appel de dimanche dernier a commencé à porter ses fruits. Plus de 10% de nos donateurs nous ont renvoyé ou un chèque ou un virement pour compléter les dons qu'ils avaient déjà faits. Et nous avons également des nouveaux donateurs qui commencent à contribuer. La barre est haute, mais elle est franchissable. Si nous prenons conscience que donner à l'oratoire, c'est aussi donner les moyens de continuer, d'être présents les uns aux autres, d'être imprésents les uns pour les autres, comme des pépites de mire. Merci à vous.
À Alors, nous remercions tous ceux et toutes celles qui se sont mobilisés dimanche dernier pour soutenir financièrement leur Église. Vraiment du fond du cœur, merci. Demandez et l'on vous donnera, est-il écrit dans l'Évangile, et c'est vrai.
Et il est écrit aussi, portez les fardeaux les uns des autres. Donc nous pourrons réaliser le budget, comme disait Aurore tout à l'heure, nécessaire à cette grande maison, si chacun prend sa part. Donc on continue l'effort, on continue nous à demander, à contribuer aussi bien sûr, et si tout le monde donne, nous y arriverons. Donc courage, on va y arriver. Et nous allons maintenant écouter David qui va jouer pour nous. Merci David.
Thank you.
Nous prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, ta parole nous a redit ton amour pour chacun et chacune de nous, pour nos frères et pour nos sœurs, pour le monde entier.
Nous déposons devant toi celles et ceux qui souffrent dans leur corps, leurs esprits, les malades et les mourants, actuellement seuls dans leur épreuve, les endeuillés, parfois obligés d'accompagner leurs défunts dans des conditions insoutenables, accablés par le chagrin de la mort de leurs proches. Nous te confions les isolés, les abandonnés, les épuisés, les découragés à cause de la situation sanitaire actuelle, accablés par un sentiment d'injustice et d'abandon. Nous te confions les migrants, les exilés, les prisonniers, qu'il ne faut pas oublier dans un moment où les précaires sont encore plus précaires.
Donne-nous de savoir témoigner auprès d'eux de ton amour. Nous sommes appelés à construire avec tous une vraie fraternité. Nous déposons devant toi, au-delà de nos divisions et de nos oppositions, toute ton Église. Donne-nous de savoir ensemble témoigner de ta présence dans nos vies. Nous déposons devant toi nos incompréhensions devant les difficultés croissantes de notre situation mondiale. Nous te confions celles et ceux qui gardent la foi, l'espérance et l'amour, qui prodiguent les gestes appropriés, en présence comme à distance, pour soigner, soutenir et accompagner. Ô Éternel, Dieu de la vie, nous rassemblons notre prière imparfaite dans celle que Jésus nous a enseignée.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, recevez maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde.
Que le Seigneur fasse rayonner sur toi sa face et t'accorde sa grâce.
Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen. Et nous vous donnons rendez-vous jeudi à 12h30 dans les mêmes conditions de direct qu'aujourd'hui, sur le site ou sur les réseaux sociaux pour la pause spirituelle. À bientôt.